When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info dans un format un petit peu décalé, vous l'aurez compris. On commence à 16h exceptionnellement aujourd'hui. Dans un instant, je vous présente mes invités. Ce sera juste après un premier point sur l'actualité, à commencer par la Russie qui réitère ses menaces nucléaires. Au dernier jour des votes d'annexion en Ukraine, des référendums organisés dans quatre régions d'Ukraine dénoncés comme des simulacres à la fois par Kiev et les pays occidentaux. L'ancien président russe Dmitri Medvedev, que vous voyez à l'écran, assure d'ailleurs que Moscou défendra ses territoires coûte que coûte. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, je le cite évidemment. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire. Et alors que les autorités pro-russes annoncent le oui en tête dans ces fameux référendums, Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, évoque un risque d'escalade. Elle est en déplacement à Kiev aujourd'hui pour une visite de soutien à ce pays en dénonçant des référendums illégaux et elle a menacé de sanctions supplémentaires. On va écouter un extrait de ce qu'elle a dit.
Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées, si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne, avec le plein soutien de mon pays.
Plus près de nous, un mot de l'actualité sanitaire avec les nouveaux vaccins contre le Covid-19 qui arrivent sur le marché dès le 3 octobre. Annonce du ministre de la Santé, François Braun, sur France Info ce matin. Face à une reprise de circulation du virus, eh bien, cette campagne de vaccination va cibler désormais le variant Omicron, le plus récurrent. Précision, ces vaccins ne sont pas destinés à l'ensemble de la population. Les plus de 60 ans, les plus fragiles, leur entourage ainsi que les soignants devraient être directement concernés. On en vient à cette nouvelle manifestation de soignants pour dénoncer les salaires insuffisants et des problèmes d'effectifs récurrents également à l'hôpital. Le but étant de mettre la pression sur le gouvernement après un été qui a vu des services d'urgence fermés à tour de bras. Certains soignants étaient particulièrement remontés dans les cortèges. On va les écouter.
Ils font un plan Marshall de l'hôpital parce qu'aujourd'hui, les bâtis sont en grande dégradation. Le matériel n'est plus au rendez-vous. On fait aujourd'hui du soin avec des bouts de ficelle. Et donc, il faut investir massivement pour retrouver le niveau d'excellence matérielle.
On attend depuis de nombreux mois une réponse de la part du gouvernement, une réponse opérative, à savoir quelles vont être les mesures qui vont être prises pour corriger tous les problèmes qu'on a à l'hôpital. Et on se rend compte que le gouvernement se limite à nous répondre qu'il va lancer une grande consultation. Donc, nous, on est opposés à cela.
Aujourd'hui, le but, c'est de sensibiliser les parlementaires à nos revendications. Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances de sécurité sociale, puisque c'est notre source de financement.
Un mois présent de cet ouragan appelé Yann, qui touche terre à Cuba en ce moment. Il s'est renforcé pour passer à la catégorie 3. Il vient de toucher la localité de La Coloma. C'est un village de pêcheurs situé sur la côte ouest de l'île de Cuba. Cuba et la Floride qui sont menacés en ce moment de dégâts dévastateurs selon le Centre national américain des ouragans. Et puis, qu'on parle des États-Unis, on va partir dans le Colorado avec cette image hallucinante, vous allez le voir. C'est une arrestation sur la route. Jusqu'ici, rien d'anormal. La voiture de police dans laquelle cette femme menottée est conduite est située sur un passage à niveau, garée en plein passage à niveau. Et au bout de quelques secondes, vous allez le voir, les agents de police qui l'ont interpellée vont s'éloigner d'eux-mêmes avec un train, vous allez voir, ça va très très vite, hein, qui arrive à toute vitesse et qui percute donc de plein fouet ce véhicule dans lequel se trouve la dite jeune fille. Fort heureusement, la jeune femme âgée de 20 ans s'en est sortie quasiment indemne avec des contusions, avec une fracture au bras. Mais évidemment, à voir les images, on comprend qu'elle a échappé de très très peu à une mort quasi certaine. Voilà pour l'image choc de cette journée. Je vous présente mes invités pour entamer le débat. Bonjour Jean Messia.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Apollon. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, l'historien Jean Garrigue. Bonjour. On a l'habitude de recevoir dans 90. Bonjour Jean, merci d'être là également. Bienvenue à vous, Louis Marguerite. Je vous rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Et à vos
Bonjour.
Côtés, Ludovine de la Rochère. Bonjour Ludovine, bonjour, présidente Mélie. De la Manif pour tous. On a beaucoup de sujets et très peu de temps pour les aborder, mais on va essayer de les balayer néanmoins le mieux possible avec votre analyse. On va parler de l'affaire Bayou, ce qui convient d'appeler maintenant l'affaire Bayou, qui chaque jour prend une nouvelle dimension. Il a annoncé sa démission de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, ainsi que sa fonction de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale. Et entre-temps, son avocate a pris la parole. Elle dénonce une croisade lancée contre son client à des fins politicienne. Regardez le tout mis en image par Sophia Dolé.
Par la voix de son avocate, Julien Bayou dénonce d'abord l'opacité de la procédure lancée par la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes du parti Europe Écologie Les Verts. La cellule, autosaisie de l'affaire depuis le 30 juin dernier suite à un mail de l'ex-compagne du député, n'aurait à ce jour toujours pas auditionné Julien Bayou.
À 4 reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule. Ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre.
Le député dénonce également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques.
Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionnés, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire.
Julien Bayou dit avoir démissionné pour pouvoir se défendre plus librement. Il s'exprimera personnellement dans les prochains jours.
Ludovine de la Rochère, on a entendu les mots d'instrumentalisation, de croisade. On a l'impression quand même qu'on est en train de laver un peu son linge sale en famille sur la place publique, pour le coup. Et au cœur de cette cabale, il y a bien sûr une certaine Sandrine Rousseau, ça vous, tout cela vous met mal à l'aise ?
Ah oui, plus que mal à l'aise. En fait, on est confronté à une sorte de tribunal révolutionnaire néo-féministe qui prétend juger, qui prétend enquêter, évidemment de manière absolument partisane et donc non indépendante par définition, puisqu'elles sont jugées parties, puisqu'elles sont très impliquées et puisque nous sommes véritablement dans l'idéologie woke qui estime que les hommes sont tous auteurs et dominateurs tous dominants vis-à-vis des femmes, et que certains devraient payer au nom de siècles de patriarcat, prétendument. Et il y a derrière cela toutes ces notions, toute cette idéologie qui mélange tout, qui est dans la confusion la plus complète et qui met sur le même plan toutes sortes de choses différentes les unes des autres et qui se croit autorisée à mettre sur la place publique, à jeter en pâture des noms, des faits, des récits intimes, des récits personnels.
Tous les moyens sont bons pour les écarter, pour en venir à bout, d'une certaine manière.
Oui, absolument. Et Julien Bayou ne semble pas, pour le moment, avoir compris ce qui lui arrive. C'est-à-dire que, dans une communication qu'il a faite, il concluait en disant qu'il continuait à condamner les violences faites aux femmes, sexuelles et sexistes. Il a raison, évidemment. Mais tout ce langage-là appartient à un courant qui est véritablement dans une démarche qui n'est pas celle de la justice, qui n'est pas celle du droit, qui n'est pas celle du sérieux, et qui, encore une fois, confond tout. Et c'est extrêmement inquiétant pour les relations entre les hommes et les femmes, pour la raison et pour la démocratie, tout simplement.
Jean-Garrigue, si on place ça sur le plan purement politique et qu'on s'extrait un peu de la problématique féministe à proprement parler, ça dénote quand même une atmosphère nauséabonde en interne qui est alimentée par des ambitions personnelles. Et ça aussi, c'est très gênant, en fait.
Vous savez, c'est pas très nouveau. J'allais dire Europe Écologie Les Verts, la famille écologiste, ça a toujours été des attrits, il y a eu toujours des règlements de compte, souvent c'était un peu dans la perspective des élections présidentielles. Là, c'est en perspective du Congrès qui vient, oui. Je ne suis pas très surpris. Bon, il y a une dimension politique qui pourrait dire aussi, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que Julien Bayou, depuis des années, c'est le premier procureur du tribunal médiatique. Dès que quelqu'un a fait un pas de travers, à chaque fois, il a, en demandant la démission, la démission, la démission. Là, ça lui retombe dessus et il réalise ce que c'est. Alors, c'est vrai qu'il y a un fond de sauce qui est le règlement de compte politique, parce que la candidate de Julien Bayou pour le futur congrès, c'est pas lui, hein, il n'est pas candidat, mais c'est Marine Tondelier. Et la candidate de Sandrine Rousseau, c'est une autre dame qui d'ailleurs a pris position, elle aussi, dans cette affaire, de manière assez symptomatique. Mais voir que cette affaire-là, qui est une affaire de vie privée, est exposée comme ça à la vindicte publique par quelqu'un qui est du même parti, Sandrine Rousseau, qui est maintenant a érigé finalement le buzz médiatique en sorte de rituel politique. C'est une manière de s'installer dans la vie publique. Ça pose des tas de questions. Oui. Ça pose des tas de questions sur la déformation de ce qu'a été le mouvement MeToo, sur la déformation de ce qu'est la cause légitime des femmes. Enfin, bref, il y a énormément de questions qui se posent dans la société aujourd'hui.
Et puis, il y a une autre question qui se pose. Ça a été soulevé dans le reportage précédent, Louis-Marguerite. C'est cette fameuse cellule d'enquête. Ça aussi, c'est une cellule d'enquête en question. Ça rappelle un petit peu la commission interne qu'on a. On voit l'équivalent aussi chez LFI. Il ne faudrait pas que ces structures en interne se substituent à la justice. Ça, c'est un débat aussi récurrent depuis quelques jours.
Non, ça, c'est clair. D'abord, rappeler qu'il n'y a aucune violence qui ne peut être justifiée, quelles que soient les difficultés, les souffrances, vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qu'on en sait. On n'a pas à le savoir, d'ailleurs, mais il se trouve qu'on le sait. Donc, aucune souffrance qui peut être justifiée. Je crois, sans utiliser les mots qui ont été évoqués par Mme Larochère, je partage l'idée que la justice ne se rend pas dans des institutions où elles n'ont pas lieu d'être rendues. Et la justice, elle se rend dans les tribunaux, dans les juridictions spécialisées, les juridictions qui ont compétence pour le faire. Et je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Et donc, qu'il y ait des cellules d'écoute, d'accompagnement, de conseils peut-être. Pourquoi pas, ça regarde Europe Écologie et Verts, parti dont je ne suis pas membre, et c'est à la limite, c'est pas le sujet. En revanche, dès lors qu'il y a plainte, suspicion de plainte, vraisemblablement, il n'y a pas de plainte qui a été déposée, eh bien, c'est au tribunal, au procureur, en l'espèce de poursuivre, d'analyser, de poursuivre et de le transmettre à un juge. Donc, il me semble qu'il a démissionné vraisemblablement parce qu'il est dans des fonctions et dès lors qu'on a une vie publique, la frontière entre la vie professionnelle, en tout cas la vie du mandat et la vie privée, est forcément un peu poreuse, il a le droit de se défendre et je pense qu'il faut aussi lui donner ce droit, mais en revanche, le droit doit être rendu par la justice et les juridictions spécialisées.
Jean Messia, qu'est-ce que toute cette affaire vous inspire ? Pour faire un petit peu la synthèse avant de passer à un autre thème.
Écoutez, cette histoire me donne la nausée. Parce que quand on entend, si vous voulez, ce déballage absolument invraisemblable de quelque chose qui relève vraiment de l'intime, il n'y a rien de pénalement répréhensible dans tout cela. D'ailleurs, de l'aveu même de Sandrine Rousseau aux journalistes en off après l'entretien avec l'ex-femme de Julien Bayou, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit il n'y a rien de pénalement répréhensible, pourquoi jeter comme ça en pâture ? Donc en fait, la justice version woke, c'est l'ex-femme de Julien Bayou a dit, Sandrine Rousseau a dit, et sur la base de ces dires, eh bien, il y a comme ça des tribunaux. Donc moi, je vais vous dire, en Iran, il y a les ayatollahs, mais nous avons en France des ayatollettes. C'est-à-dire effectivement une espèce de dictature tyrannique d'une parole qui n'est ni vérifiée, sur laquelle il n'y a pas d'enquête, sur laquelle il n'y a pas de décision juridique. Et ça, c'est extrêmement généreux. J'ajoute que c'est quand même assez extraordinaire de la part de ce mouvement, les écologistes et la gauche de manière générale, à inventer finalement des violences faites aux femmes qui sont complètement fantasmagoriques, quand les véritables violences massives faites aux femmes dans nos rues, de la part de certaines populations, là, il y a un aveuglement et un silence total sur ces violences-là. Quand on vous parle que les violences faites aux femmes de la part d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère dans nos rues ont explosé dans plusieurs villes de France, d'ailleurs des villes administrées souvent par la gauche. Là, il y a une omerta absolue là-dessus, parce qu'en fait, les seules violences faites aux femmes, selon ce logiciel, ça ne peut être que des violences du patriarcat.
Juste en deux mots, je ne connais pas l'affaire Bayou, et à la limite, je suis d'accord avec vous, on n'a pas savoir, mais les violences faites aux femmes, c'est pas une vue de l'esprit. Elles ont augmenté et les commissariats de police. C'est ce que vous avez dit. C'est une vue de l'esprit.
J'ai pas dit ça.
Je préférais le rappeler parce que c'était pas tellement clair dans votre propos.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit là, en l'occurrence, dans l'affaire Bayou, S'il y a une violence faite à l'ex-compagne de M. Bayou, il appartient à la justice d'en décider.
C'est ce que j'ai dit.
En revanche, vous avez déjà entendu un écologiste réagir lorsqu'un migrant, par exemple, les trois Soudanais qui ont violé cette femme à Nantes il y a quelques jours.
C'est pénalement
répréhensible. Vous avez entendu un écologiste réagir même un membre de la NUPES réagir
écologiste.
Jamais.
Mais je félicite les forces de police d'avoir mis la main sur les auteurs.
Je vous inspire, on allait justement vous montrer les chiffres. Vraiment, en deux mots, que j'aimerais bien vous montrer les chiffres qu'on a préparés.
Il existe
là-dessus.
Bien des femmes qui sont victimes de diverses formes de violences. Alors, on ne peut pas comparer une forme de harcèlement psychologique avec une gifle, avec ce qu'on appelle aujourd'hui un féminicide. Ce sont des choses qui sont bien différentes et c'est pour ça que cette confusion permanente est très gênante.
Alors,
l'autre chose, c'est qu'il y a des violences, mais nous ne sommes pas, il est faux de dire que nous sommes dans un pays qui est structurellement et qui serait de manière systémique violent à l'égard des femmes. Et c'est cela le problème du wokisme que j'évoquais, et c'est cela le problème que nous avons avec son
alors j'aimerais qu'on
et ses collègues.
Vous communique ces fameux chiffres. On a un petit peu de recul maintenant sur les récurrences de violences sexuelles et d'atteintes à l'intégrité physique. Elles augmentent, vous citiez Nantes à l'instant. Effectivement, ça semble être un cas d'école dans cette nouvelle tendance. Regardez-les, ces chiffres. L'augmentation est quand même assez impressionnante pour ce qui est des atteintes aux biens. Alors là, les atteintes aux biens, bon, il y a une diminution, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va balayer ce carton assez vite pour en venir aux atteintes. Voilà, volontaires, c'est important de le préciser quand même, à l'intégrité physique, plus 17% en seulement 5 ans. Donc c'est absolument pas négligeable. Mais quand on en vient aux violences sexuelles, alors là, on franchit encore un cap. Regardez, on en est, pour ce qui est de Nantes, en l'espèce, dans cette ville qui était citée, érigée en exemple d'une ville à peu près tranquille de province, plus 70% en 5 ans. C'est donc une très forte hausse, pour ne pas dire pratiquement, on a pratiquement doublé, on va dire, en 5 ou 6 ans. Et effectivement, il y a eu, dans l'actualité récente, ce viol commis à Nantes par deux hommes âgés de 17 et 27 ans, d'origine soudanaise. C'est pas un micro-phénomène. Et puis, il y a le profil des agresseurs qui interrogent, évidemment, Jean. Jean Garrigue,
pour le coup. Là où je partage l'opinion de Jean, parfois un peu excessif sur certains autres aspects, mais il y a une indignation sélective à gauche. C'est clair, on s'indigne des violences, et on a raison de s'indigner lorsqu'il y a violence faite aux femmes dans le fort privé, mais on s'indigne beaucoup moins des violences qui sont faites dans le cadre justement de cette montée de la violence.
Mais là, on n'en est plus au sentiment d'insécurité.
Alors,
on est dans l'insécurité.
Nantes, c'est vraiment terrible, parce que c'est caricatural, parce que c'est une ville, comme vous l'avez dit, qui était citée en exemple il y a une vingtaine d'années comme la grande métropole la plus sûre de France, la plus agréable à vivre, etc. Et il y a une montée de la violence, tous les Nantais vous le diront, il se trouve que c'est une ville que je fréquente, où je vais assez souvent, et où, franchement, il y a des endroits où on ne peut pas se promener à la tombée du jour, si vous voulez. C'est impossible, c'est interdit. Et alors, il y a un problème, c'est que la maire de Nantes, Johanna Roland, pour ne pas la citer, manifestement a une légère tendance à sous-évaluer, sous-estimer, et pour tout dire, à ne pas faire grand-chose pour enrayer, pour endiguer cette violence. Et là, il y a un vrai problème.
Louis Marguerite.
Oui, les chiffres sont malheureusement assez éclairants. Alors, moi, j'ai eu le même cas, alors sans avoir ces chiffres-là aussi dans ma circonscription, donc à Montceau-les-Mines et à Chalon-sur-Saône, où les enquêteurs de police me disent effectivement qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales. Alors là, on parle des violences sexuelles et intégrité physique, mais bon, je pense qu'on peut élargir aux violences intrafamiliales. L'enjeu, c'est aussi qu'il y a 5 ou 10 ans, enfin, a fortiori avant, dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, on avait moins le réflexe de poursuivre, de transmettre. Donc là, déjà, on a cet effet-là. Ça ne veut pas dire que ça explique toute l'augmentation, mais ça explique une partie. Donc, en effet, il y a une question de formation, une question d'écoute. Il faut transmettre, il faut donner les moyens et aux policiers et aux gendarmes et à la justice de pouvoir traiter ces affaires, parce que c'est aussi le sujet. Il faut qu'elles soient poursuivies et qu'on puisse établir la justice sur des faits. Et vous avez raison, mais alors il faut évidemment le traiter et mettre les moyens qui vont avec.
Oui, de manière très courte, je voudrais quand même insister sur une chose. Il y a en effet plus de déclarations spontanément, probablement suite au mouvement MeToo, mais il y a incontestablement un autre phénomène qui est celui de l'arrivée de personnes, de cultures qui, pour le coup, contrairement à la France, considèrent la femme ou attribuent à la femme un statut de soumission, d'infériorité, et dans lesquelles on se permet plus facilement de mal la traiter. Et il serait temps que toutes ces féministes, ou plutôt ces néo-féministes, parce que ce sont des courants bien particuliers au post-féminisme, je ne sais pas, il serait temps qu'elles cessent de critiquer la culture occidentale qui n'est pas sexiste et patriarcale aujourd'hui. Nous sommes dans un pays qui a l'un des plus hauts niveaux d'égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, qu'elle s'intéresse à des populations qui arrivent avec une pensée, une considération effectivement différente de la femme.
Alors ça va nous conduire à parler des OQTF, hein, les fameuses OQTF, parce qu'il y a beaucoup de ces personnes récidivistes qui sont là sans avoir rien à faire dans notre pays, en tout cas en toute illégalité. Le mode d'emploi, on ne sait pas exactement qui évalue ces dossiers. Qui les exécute, ces OQTF? On sait qu'elles sont de l'ordre de 12%, même si maintenant l'exécutif nous dit qu'on est plutôt autour de 15-20%. On verra les chiffres réels. Bonjour Amaury Bucaud, vous êtes avec nous pour en parler. Comment ça marche, une OQTF? Qui la prononce? Quel délai on donne? Est-ce que c'est un papier comme ça qui reste lettre morte ou est-ce qu'il y a un effet réel derrière?
Alors Nelly, on va essayer de faire simple. Hein. Tout ça est assez compliqué. Alors imaginons que vous soyez étrangère, vous êtes rentrée illégalement sur le territoire, ou bien vous n'avez pas renouvelé vos papiers, et bien vous êtes en situation irrégulière et vous voyez délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui est valable un an. Attention, cette OQTF n'a rien d'automatique, elle est souvent délivrée par la préfecture à l'occasion par exemple d'un contrôle de police, si vous avez commis un délit, ou bien si vos demandes d'asile ont échoué. Alors OQTF, ça veut dire que vous avez 30 jours pour quitter le territoire, ça c'est si vous êtes très obéissante. Ce qu'on appelle un départ volontaire. Vous pouvez même demander à être payé pour partir et pour rentrer chez vous. C'est ce qu'on appelle l'aide au départ volontaire. C'est une somme de 300 à 1200 euros qui sont versés par l'État pour chaque adulte et enfant. Alors ça peut vous paraître très cher, hein, mais ce n'est rien à côté des milliers d'euros que coûte un départ forcé, nous disait une source bien informée.
Donc c'est départ forcé, pour qu'on comprenne un peu.
Oui, alors les départs forcés, alors c'est lorsque vous avez une OQTF et que vous n'êtes pas parti de façon volontaire, ou bien si vous avez par exemple agressé, volé, etc., et que la France veut vraiment vous renvoyer chez vous. Alors dans ce cas, la préfecture peut décider de vous assigner à résidence jusqu'à votre expulsion, ou bien de vous placer dans un centre de rétention administratif fermé. Mais alors pas de panique, si vous allez dans un centre de rétention administratif, vous n'êtes pas parti pour autant, hein, c'est, rien n'est joué. Il faut encore, pour certains pays par exemple, que vous ayez fait, que vous acceptiez de faire un test Covid, que ce test Covid soit négatif, que la France vous trouve un vol à ses frais bien entendu, mais surtout que votre pays accepte de vous reprendre malgré l'absence de papier d'identité, puisqu'a priori, enfin beaucoup de clandestins en tout cas détruisent leurs papiers pour ne pas être expulsés, c'est les fameux laissez-passer consulaires, hein, l'acceptation de reprendre son ressortissant. Mais alors même si toutes ces conditions sont remplies dans les 90 jours, puisque après 90 jours, vous êtes remis dans la nature, lorsque vous êtes passé dans un centre de rétention, eh bien, même au bout de ces 90 jours, avant ces 90 jours, si vous êtes expulsé, eh bien, si à l'aéroport, par exemple, vous faites une esclandre et que vous ne voulez pas monter dans l'avion, eh bien, c'est arrivé la semaine dernière à Marseille, eh bien, le chef de bord peut décider finalement de ne pas vous expulser. Et vous comprendrez donc après toutes ces explications que seulement 80 à 90% des OQTF ne sont aujourd'hui en France pas exécutés.
Voilà, merci beaucoup, Amaury Bucaud. Jean Messia, et assez rapidement, parce qu'on va devoir malheureusement s'interrompre à nouveau, c'est très codifié, sauf que ça ne marche pas, quoi.
Non, ça ne marche pas, mais si vous voulez, moi j'ai une question de bon sens à poser, et je m'étonne que nos élites dirigeantes ne le soient jamais posées depuis une quarantaine d'années. Si on n'arrive pas à expulser les gens, et que c'est si compliqué d'expulser les gens qui n'ont rien à faire chez nous, pourquoi laisse-t-on rentrer les gens chez nous? Pourquoi ne freine-t-on pas une immigration alors même que nous sommes dans l'incapacité? Lorsque, par exemple, des gens sont déboutés de leur demande d'asile, on sait très bien qu'ils restent chez nous. Pourquoi ne fait-on pas en sorte, comme vient de le faire l'Angleterre il y a quelques semaines, pourquoi ne fait-on pas en sorte que les gens déposent leur demande d'asile à l'extérieur de notre territoire?
Schengen.
Ça,
pourquoi Schengen?
Mais non, ça, attendez, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne crains, si vous voulez, que cette problématique va s'accentuer encore, ouais, parce que qu'est-ce qui est en train de se mettre en place et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, président de la République, est en train de mettre en place? Il est en train de mettre en place sournoisement un accord avec les pays d'origine en disant « Vous reprenez vos clandestins délinquants et criminels et nous allons fermer les yeux sur le reste des clandestins qui pourront débarquer tranquillement chez nous. » Voilà le deal qui est en train de se mettre en place et dont personne ne parle. Donc non seulement on ne va pas résoudre le problème, mais il va s'aggraver.
Alors oui, Marguerite, pour la défense, c'est très vite.
Il a évidemment pas dit ça.
Mais c'est ce que je dis.
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit effectivement qu'on devait lutter contre l'immigration clandestine. Il a demandé en particulier à l'Algérie, mais un certain nombre de pays tiers, qui effectivement ne reprennent pas leurs ressortissants et interroger des préfectures, des directeurs de cabinet de préfet, des secrétaires généraux. Ils vous diront que les consulats effectivement, refusent d'être pris, voire ne les reconnaissent pas du tout. Donc le sujet, et c'est bien ce que Gérald Darmanin essaie de faire, c'est d'augmenter le taux d'exécution des OQTF. Donc c'est ce qui a été expliqué dans le reportage. C'est en train d'augmenter. Et voilà,
on passe de 12 à 14.
Une réduction du délai entre la décision d'être débouté ou pas du droit d'asile et l'expulsion
vers le pays. D'accord, vous êtes d'accord qu'en l'espèce, on va s'arrêter
là. Mais c'est pas satisfaisant.
On devrait être à 100%. Enfin, je veux dire,
c'est pas satisfaisant, mais il faut qu'on progresse en la matière, c'est certain.
Merci. Allez, on peut pas se réjouir que ce soit qu'à 15 ou 20% et qu'on ait moins de 5%.
C'est pas ce que j'ai dit.
On va s'interrompre un petit moment et puis on parlera de la conférence des évêques avec Emmanuel Macron qui a rencontré les ecclésiastes ce matin. Il y a beaucoup de sujets qui étaient sur la table. À tout de suite. De retour dans le débat 90 minutes info, on va parler de la conférence des évêques de France, puisqu'Emmanuel Macron recevait cette conférence aujourd'hui. Au programme des discussions, l'aide active à mourir, vous le savez, le comité consultatif national d'éthique s'est montré plutôt favorable à cette notion à la mi-septembre. Les évêques, évidemment, eux, sont opposés à un quelconque assouplissement de cette loi. Ludovine de la Recherche, je me tourne vers vous dans un instant, mais j'allais en perdre de vue le mini-JT en compagnie de Mathieu Devez, et on se retrouve juste après.
La commission électorale russe annonce le oui en tête lors du référendum d'annexion en Ukraine, un vote fortement décrié par la communauté internationale. Le oui remporte entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes dans les bureaux en Russie. On attend encore les résultats dans les régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou. Que se passe-t-il au fond de la mer Baltique, controversée et hors service à cause de la guerre en Ukraine? Les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été touchés par des fuites inexpliquées. Ces fuites ont fait naître des soupçons de sabotage chez les autorités danoises, suédoises et allemandes. De son côté, la Russie se dit extrêmement préoccupée et estime qu'il ne faut exclure aucune hypothèse. Enfin, l'homme soupçonné d'être l'auteur d'un refus d'obtempérer à Anglet dans la nuit de samedi à dimanche a été placé en garde à vue. Tandis qu'ils intervenaient pour mettre fin à un rodéo urbain, trois policiers avaient été légèrement blessés par une voiture prenant la fuite. Le conducteur présumé du véhicule est connu des services de police. Il a été arrêté tandis qu'il circulait dans une autre voiture avec une femme. Tous deux ont été placés en garde à vue.
Allez, après notre petit faux départ sur la conférence des évêques, on va en reparler avec vous, Ludovine de la Rochère. On sait que les évêques sont opposés donc à un assouplissement de la loi sur l'aide active à mourir. C'est un sujet sensible, évidemment. Comment peut-on aujourd'hui dans notre pays réconcilier tous les points de vue, sachant quand même que certes les ecclésiastes sont dans leur rôle, mais la société, elle évolue sur ces questions?
Alors, il faut savoir qu'il faut être très précis. Il y a déjà eu deux lois qui concernent la fin de vie, la loi Leonetti, puis la loi Claeys-Leonetti. Elles ont, dès la première, a été interdit l'acharnement thérapeutique et a été rendu possible le fait de soulager les souffrances en sédatant éventuellement et quitte à donner la mort. Mais l'intention est bien de soulager les souffrances, ce qui en termes de solidarité et de mission des médecins a tout de même un sens capital. Cette fois-ci, il y avait eu donc une deuxième tentative qui a donné la loi Claeys-Leonetti qui est allée un petit peu plus loin. Oui. Et je dirais même à la limite de la ligne rouge. Là, cette fois-ci, il s'agit de pouvoir donner la mort ou se donner la mort avec une assistance, quand on est même en bonne santé. Il ne s'agit plus de fin de vie. C'est cela la particularité. D'accord. Alors vous avez raison, les évêques, et je pense les représentants de toutes les religions, ils sont opposés, mais il y a aussi une très large opposition du corps médical. Et il y a par ailleurs, dans l'opinion publique, il faut bien le voir, une méconnaissance du sujet, parce que la communication des militants, qui sont en fait peu nombreux, consiste à dire, si vous souffrez atrocement, est-ce que vous ne préférez pas qu'on vous euthanasie ou pouvoir vous suicider avec de l'aide? Mais la question, elle est absolument fausse. Ça n'est pas du tout comme cela que la question se pose dans les faits et dans la réalité.
Chacun pourrait être maître de son destin, de choisir de mettre fin à sa vie.
Exactement, ce qu'ils appellent choisir sa mort. Oui. Et même, ils osent dire, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, qu'il s'agirait d'un acte et d'une loi qui serait votée par amour. C'est absolument invraisemblable et c'est l'inversion complète des valeurs et de la conception de la vie.
Précisément, Jean Garrigue, il faut faire attention avec ces questions d'éthique, ne pas se tromper de questions en la matière.
Oui, ce sont des questions extrêmement délicates parce qu'elles font appel à l'intime, aux convictions intimes de chacun. Je comprends, les évêques sont dans leur rôle. La préservation à tout prix de la vie. Les médecins aussi, le serment d'Hippocrate, tout ça, on peut très bien comprendre.
Mais elle nous dit qu'ils sont très partagés, les médecins.
Et ils sont en majorité opposés.
Opposés.
Et plus encore ceux des soins palliatifs.
Je peux l'entendre. La seule chose, et c'est un problème qui s'était posé d'ailleurs du temps de l'IVG pour Simone Veil. Simone Veil, elle constatait que beaucoup de femmes allaient se faire avorter à l'étranger ou par des faiseuses d'anges, que ça provoquait que les conséquences étaient néfastes.
Là aussi, il y a un petit phénomène de cet ordre-là.
Voilà.
Enfin, quand il s'agit de mourir, de toute façon, il n'y a pas de problème de mauvaise santé ni de conséquences ensuite.
Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez un certain nombre de femmes qui vont, qui choisissent de mourir, ou d'hommes d'ailleurs, qui choisissent de mourir à l'étranger, où la législation est différente. Je pense à ces personnes. Je veux dire que dans la mesure où il y a une demande sociale, alors quelle qu'elle soit, il faut l'évaluer, la quantifier, etc. Dans la mesure où la population française y serait majoritairement favorable, peut-être faut-il réfléchir à un référendum sur une question de ce type, une question éthique qui fait appel, je répète, au fort intérieur de chacun. Eh bien, moi, je pense que ça mérite au moins discussion.
Jean Messia, est-ce qu'il y aura de toute façon une évolution inéluctable ou est-ce qu'on doit s'en tenir, un peu comme le préconise Ludovine de la Rochère, à la législation existante qui, au fond, va très bien comme ça?
Je suis d'accord avec ce que dit Ludovine de la Rochère. Il faut s'en tenir à la législation existante parce que, vous savez, le problème du droit à mourir dans la dignité, ça ne doit pas être sous les phares avenants d'une terminologie un peu consensuelle. Ça ne doit pas cacher finalement le droit au suicide. Parce que les gens ont droit de se suicider eux-mêmes, puisqu'ils sont maîtres de leur vie. On peut pas, il faut l'en empêcher quand on le peut, mais bon, chacun est libre de choisir sa vie et sa mort. Mais il ne faudrait pas que la société, comme cette dame qui, justement, qu'on avait vue il y a quelques semaines, qui disait qu'elle partait en Suisse parce qu'elle souffrait, elle était dans un état psychologique. Un peu fatiguée, et elle voulait effectivement que la médecine l'aide. L'accompagne dans une forme de suicide assisté alors qu'elle n'avait pas de problème de santé. Donc cette personne, si vous voulez, dans une société, je dirais, avancée, moderne, civilisée, cette personne, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner psychologiquement, il faut l'aider, si vous voulez, dans son mal-être, mais il ne faut certainement pas lui administrer effectivement le processus létal qui va l'aider dans ce qu'on peut soigner à la base. Et j'ajoute, la symbolique est quand même forte que Emmanuel Macron ne rencontre quasiment jamais la conférence des évêques. Le seul moment où il décide de les rencontrer, c'est pour parler de la mort. Et c'est tout un symbole.
Oui,
c'est
annuel. Ce sont des questions très philosophiques. Vous vous situez dans ce débat?
D'abord, vous avez vraisemblablement un problème avec Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas pourquoi vous le citez.
J'ai un problème avec Emmanuel Macron, c'est lui qui les rencontrait, non?
D'abord, l'Église catholique est dans son rôle. C'est la Conférence des évêques de France qui représente l'Église catholique en France et qui joue son rôle, exprime une position qui est celle d'ailleurs qui est.
Oui, mais ça ne nous empêche
historique.
Pas d'en parler.
Non, mais absolument. Mais d'ailleurs, il y a une commission et une commission. Il y a un besoin de débat. C'est évident. C'est un débat qu'on a
déjà. Emmanuel Macron a déjà décidé.
Je suis pas sûr.
Il a dit qu'en tout cas. Il l'a annoncé.
Et en tout cas, mais il consulte.
Le projet de loi est déjà écrit, vous le savez
bien. J'en ai pas eu connaissance.
Juste évoquer ce sujet qui touche, vous avez raison, à l'intime de soi-même, à ses propres convictions dont on peut changer d'ailleurs au fur et à mesure de sa vie. Et moi, j'ai vu des situations dans lesquelles les personnes ont presque changé de position dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai vécu à deux reprises des sujets à titre personnel. La raison que je me suis dit, c'est que je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ces questions dans un sens comme dans l'autre. Ne pas être extrêmement sûr de soi parce que c'est vrai, la souffrance est scandaleuse et l'enjeu, c'est effectivement de l'atténuer le plus possible. Il y a la question de développement des soins palliatifs qui est une question connexe, mais qui, à mon avis, ne résout pas toute la question. Non, ça n'existe pas suffisamment.
Bien sûr que si, la sédation lente est continue.
Donc il faut qu'on ait ce débat le plus apaisé possible et qu'on voit où est-ce qu'on peut, si on doit aller plus loin, l'encadrer très strictement.
On va s'arrêter là-dessus.
Un dernier mot de la Macronie sur les sujets de société, c'est
un sujet apaisé. Non, c'est pas un sujet. J'ai pas eu de projet de loi. Rassurez-vous, j'ai pas eu de projet de loi.
Ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas de la Macronie et je veux un débat apaisé.
Est-ce qu'on peut s'intéresser au fond du propos? Les évêques, comme d'autres, bien sûr, sont sur le fond du sujet. Ils ont des arguments importants, précieux.
Ça sera le mot de la fin.
Ils travaillent pour le bien commun. Et je trouve qu'au lieu de les renvoyer de leur côté, on doit réellement...
Je sais pas pourquoi vous dites ça, alors que j'ai considéré qu'ils étaient dans leur rôle comme
d'autres. Oui,
mais une fois que vous dites ça, vous les enfermez dans quelque chose qui...
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, on déborde un petit peu. J'espère que Laurence Ferrari et nos amis de Punchline nous en tiendront par rigueur. On se retrouve demain à 15h30, cette fois, pour le début de 90 Minutes Info. Merci à tous.
Merci.
À très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.